pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Du 16 au 22 juin 2025 se déroulera la 55e édition du Salon du Bourget au nord de Paris. Il s'agit de l'un des plus importants salons d'armement au monde. Cette 55e édition du salon intervient dans une séquence où la Commission européenne a annoncé un plan de réarmement de 800 milliards d'euros, soit 5% du produit intérieur brut européen. Cela s'accompagne d'une hausse des budgets militaires et de projets de réforme visant à rétablir progressivement les services militaires dans l'ensemble des pays européens. La France, première puissance militaire du continent et deuxième exportatrice d'armes au monde, ambitionne d'atteindre 90 milliards de budget pour la défense dans les prochaines années. Un objectif qui repose sur l'accélération et la destruction des services publics, puis de la perspective d'attaque d'ampleur contre les conditions de travail. Alors que le génocide à Gaza et la colonisation des territoires palestiniens et la guerre d'Israël contre l'Iran se poursuivent, avec le soutien inconditionnel des puissances occidentales, ce salon sera par ailleurs l'occasion pour Israël d'exposer ses armes, testées au combat, sur les civils palestiniens, mais aussi de conclure de nouveaux contrats d'armement avec des entreprises du monde entier, notamment les groupes français comme Thales ou Safran. Dans l'émission de ce jour, et en appel à ce week-end de mobilisation contre la tenue du Salon du Bourget, qui aura lieu du 20 au 22 juin 2025, nous vous proposons l'écoute de deux tables rondes qui se tenaient au Cirque électrique le 24 mai dernier, avec comme titre « Guerre et répression, le business lucratif de la mort ». Cette soirée avait pour but de comprendre tous les enjeux de la nécessité d'organiser un front antimilitariste. Et donc, nous allons commencer par la présentation de cette soirée, et c'était dans le cadre de la création du collectif Guerre à la guerre.
Salut, bonsoir à toutes et tous, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Pour vous présenter rapidement, en laissant les gens s'installer au fur et à mesure, la coalition Guerre à la guerre. C'est une coalition d'organisations et d'individus qui voit l'urgence d'agir autour de la notion de la guerre et du militarisme. Ça tend à vouloir construire un antimilitarisme populaire. C'est des collectifs qui se battent contre les choses qu'on connaît déjà, parce qu'on part des luttes de terrain, comme l'extrême droite, le racisme, la répression, le colonialisme et le patriarcat. Et il y a cette idée de rassembler autour de plus petits dénominateurs communs, malgré nos différences, parce qu'on n'est pas là pour polir toutes les différences et créer quelque chose de super carré. On essaie de construire quelque chose dans l'urgence, mais aussi dans la durée. Donc on n'est pas forcément d'accord sur des termes, les définitions d'antimilitarisme par exemple, ou d'autres problématiques, mais on est quand même bien d'accord que la tenue du Salon du Bourget est problématique. Donc on va parler de cette notion de guerre. On va essayer de trouver nos propres termes avec les expériences de personnes qui vont venir en parler depuis le terrain, et aussi du militarisme et de l'antimilitarisme, et comment ça se reproduit aussi dans nos propres luttes. Donc on aura une première partie qui va se centrer sur les opérations extérieures, donc de la France, et les coopérations militaires, avec un petit peu cette problématique qu'on va essayer de poser, de jusqu'où la France, en fait, est prête à aller pour maintenir son aire d'influence coloniale. Donc ça sera avec Marc-Antoine Pérouse et le collectif Survie. Donc Marc-Antoine Pérouse, directeur de recherche pour l'Institut de recherche pour le développement, politiste, auteur d'ouvrages comme « Déconstruire la guerre », c'est ça, 2018.
La guerre perdue de la France au Sahel, qui parle justement des interventions militaires de la France au Sahel.
Et Survie, qui est une association qui milite contre le néocolonialisme.
Contre le néocolonialisme français en Afrique, autour d'autres situations coloniales, comme dans les territoires dits d'outre-mer, comme en Kanaky, à Mayotte, etc.
Donc ça reste quand même sur le territoire français aussi, avec ce prisme intérieur. Super.
C'est moi qui commence ? D'accord, allez. Ok. Bon, bah, je voudrais revenir un petit peu sur les opérations Serval et Barkhane qui ont été un petit peu effacées de nos mémoires par ce qui se passe en Ukraine ou en Palestine. Donc rappelez-vous, la France intervient début 2013 au Mali, puis ensuite avec l'opération Serval, puis ensuite étend son action militaire aux pays voisins, 5 en tout, à partir de 2014 jusqu'à 2022, où elle doit partir précipitamment. Ça, c'était l'essentiel de l'opération Barkhane, officiellement pour combattre des groupes qualifiés de djihadistes et de terroristes, même si c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc je voudrais un peu revenir sur cette opération qui a été notre plus grosse intervention militaire outre-mer depuis la guerre d'Algérie. Hein. On a eu jusqu'à 5000 hommes qui ont été engagés sur le terrain. On en a perdu près de 60 et ça nous coûtait 1 milliard d'euros par an. Voilà. Tout ça pour un résultat qui laisse un peu pantois puisque finalement les groupes djihadistes, eux, ils sont toujours là, ils se sont étendus et que c'était bien l'objectif initial de cette opération militaire. Ce qui est assez étonnant quand on compare cette opération avec d'autres interventions militaires américaines ou britanniques en Irak et en Afghanistan, pour n'en citer que quelques-uns, c'est qu'une fois qu'on assiste à une déroute où l'armée américaine part dans les conditions qu'on sait de Kaboul avec l'arrivée au pouvoir des talibans, il y a quand même des questions très sérieuses qui sont posées par les parlementaires américains ou britanniques, avec des rapports au vitriol, qui dénonce effectivement les erreurs de diagnostic des gouvernements en place, la mise en œuvre de ces opérations, la façon dont on a dramatisé indûment la menace. Chez nous, rien. Pendant 10 ans, 1 milliard d'euros par an, 5000 hommes engagés sur le terrain, il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé et quel était finalement le fondement, les raisons profondes de cette intervention. Alors moi, je ne parle pas de guerre coloniale ou de guerre impérialiste, mais je parle de guerre présomptueuse, asymétrique, préventive et ingagnable. Alors je vais revenir sur chacun de ces termes, mais ils ne sont pas tellement peu brillants. Alors j'emploie pas le mot de guerre coloniale parce que ça renvoie dans notre imaginaire à des guerres de conquête territoriale comme au XIXe siècle, hein, au moment de la colonisation de l'Afrique. Et là, il est clair que quand François Hollande décide d'envoyer 5000 hommes au Mali en 2013, début 2013, l'idée n'est pas de reconquérir ces territoires, hein, et de restaurer une souveraineté française perdue sur ces pays du Sahel qui ne présentent pas un grand intérêt économique pour la France. Donc pour moi, ce n'est pas de ce point de vue, en tout cas, une guerre coloniale, même si dans les imaginaires militaires, ça peut renvoyer effectivement au passé colonial. Et on le voit bien quand au début l'armée française remonte sur Tombouctou, ça renvoie aussi à la prise de Tombouctou à la fin du 19e siècle. Il y a tout cet imaginaire colonial qui joue, mais ce n'est pas une guerre de reconquête territoriale, puisque vous le savez, hein, les gouvernements français, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont vraiment obsédés par la question de l'immigration. Donc avoir maintenant recolonisé l'Afrique et rétablir une souveraineté française sur ces pays, il n'en est absolument pas question. Par contre, ce sont des guerres présomptueuses, préventives, ingagnables et asymétriques. Et je voudrais revenir sur chacun de ces termes qui nous questionnent et questionnent aussi l'inaction de nos parlementaires qui apparemment ont plein d'autres chats à fouetter, mais qui ne posent pas de questions sur l'échec de Barkhane. Guerre présomptueuse, pourquoi ? Parce que quand on intervient, François Hollande est peut-être effectivement sincèrement convaincu qu'il peut régler les problèmes du Mali. Mais on peut se poser la question, mais comment se fait-il que l'ancienne puissance coloniale serait mieux placée pour résoudre les problèmes des Africains ? Donc il y a là quand même des imaginaires qui renvoient aussi à une phrase qui était assez connue d'un ancien ministre des Affaires étrangères de Giscard d'Estaing dans les années 70 qui disait qu'avec 300 militaires français, on pouvait changer le cours de l'histoire en Afrique. Non, je suis désolé. Vous pouvez en envoyer 300, vous pouvez en envoyer 1000, 5000, 10000. Non, on n'en est plus là. C'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, le fond du problème, et à l'époque, j'y trouvais quelques tribunes dans la presse française, début 2013, quand cette opération a démarré, le fond du problème, il est d'abord politique, en fait. Hein, pourquoi ces groupes djihadistes sont apparus? Mais en tout cas, le fond du problème, il est d'abord politique. La solution n'est pas militaire. Il a fallu du temps pour qu'on admette ça. Mais en tout cas, clairement, dès le départ, ça partait du mauvais pied. Donc des guerres présomptueuses, parce qu'on imagine que la France, en tant que puissance coloniale, serait mieux que d'autres, comment résoudre les problèmes des Africains? Donc c'est ça que j'entends, moi, par guerre présomptueuse. Alors, des guerres asymétriques, ça c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on est face à des groupes, c'est de la guerre contre-insurrectionnelle, on la labellise « guerre contre le terrorisme », mais en attendant, il s'agit bien de combattre des mouvements qu'on aurait pu appeler du temps de la guerre froide des mouvements de guérilla, qui évoluent dans les campagnes pendant que les forces gouvernementales tiennent les villes. Hein. C'est ça, des guerres asymétriques, parce qu'évidemment, il y a aussi une question qui se pose, les moyens ne sont pas du tout les mêmes, les groupes qu'on combat, ils sont extrêmement peu nombreux, donc on envoie 5000 hommes qui sont super bien équipés, comparés à ceux qu'ils vont combattre, et néanmoins, ils n'arrivent pas à bout de ces groupes djihadistes. Alors ça renvoie aussi à des questions qui ne sont pas spécifiques à la France et qu'on retrouve dans toutes les guerres contre-insurrectionnelles, qui est effectivement cette dissymétrie dont les groupes insurrectionnels savent jouer, en fait. Ils vont jouer sur les frontières poreuses, parce que les frontières, elles ne s'appliquent qu'aux forces gouvernementales qui ne peuvent pas les franchir pour exercer un droit de poursuite. Il faut négocier à chaque fois, alors qu'évidemment, les groupes insurrectionnels, eux, ils s'en fichent. Donc, en fait, on retrouve beaucoup de tactiques guerrières de la part des groupes djihadistes qui rappellent, en fait, celles aussi de groupes de guérilla qui, eux, se revendiquaient du marxisme, hein, du temps de la guerre froide. Et dans le cadre de ces guerres contre-insurrectionnelles, on a un souci, c'est que le mandat de la France dans l'opération Barkhane, c'est uniquement de taper sur les groupes terroristes, qualifiés de terroristes en fait, ce qu'ils appellent les GAT. Parce que vous savez que, comme dans toute profession, on adore inventer des acronymes, donc là c'est les groupes armés terroristes qui sont la cible. Le problème, c'est qu'on est dans des zones en fait où il y a plusieurs strates de violence. Il n'y a pas que les groupes djihadistes qui interfèrent et qui vont tuer des civils, il y a aussi des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des milices ethniques, des milices paragouvernementales, les armées gouvernementales qui se comportent aussi très très mal vis-à-vis des civils. Tout ceci d'ailleurs contribue à exacerber les conflits. Et donc on se retrouve dans une situation un peu bizarre où finalement l'armée française intervient, mais avec le mandat uniquement de taper sur les djihadistes. Ah, vous êtes trafiquant de drogue, trafiquant d'armes, non c'est bon, voleur de bétail, passez, allez-y, ça, c'est pas, vous n'êtes pas dans la focale. Donc déjà, on se dit, il y a quand même un problème de mandat, si vous voulez. C'est ridicule. Et à chaque fois qu'on en parlait, nous, chercheurs, avec des militaires, on disait, ben non, nous, on s'en tient au mandat. Alors nous, on disait, oui, mais ce que veulent les civils, eux, c'est que vous les protégiez, c'est que vous fassiez un travail de police. Ah non, c'est pas dans notre mandat. Donc déjà, on voit bien le gap. Hein. Surtout que ce phrasé d'une guerre contre le terrorisme, c'est intéressant parce que le mot terrorisme, il n'existe pas dans les langues vernaculaires africaines. Par exemple, en pays Kanouri, j'ai beaucoup travaillé, moi, sur le nord du Nigeria, vers la frontière du Niger, où il y a Boko Haram. En fait, là, en Kanouri, en Haoussa, on parle dans les langues locales des mauvais garçons. Dans le centre du Mali, là où il y a la Katiba Massina, dans les langues locales, en Peul, en Foulfoudé, vous allez parler des enfants de la brousse, parce qu'ils sont dans les maquis, vous voyez. C'est-à-dire, on va aider les Africains pour les aider à lutter contre le terrorisme. Déjà, on voit bien le décalage entre la façon dont c'est pensé à l'Élysée et la façon dont ça peut être compris localement. Vous savez, ces histoires de langue, ce n'est pas complètement anodin. Hein. Quand l'armée française s'est rendue compte, à partir de 2020-2021, qu'elle perdait la bataille des cœurs et des esprits, ils ont commencé à balancer des tracts qui étaient traduits dans les langues locales, en tamashek, en bambara, au Mali, etc., etc. Et puis c'était mal traduit, donc l'idée c'était « on est là pour vous protéger », mais comme c'était mal traduit, c'était traduit, en fait les gens comprenaient « on est là pour vous surveiller », ce qui n'est pas exactement le même sens. Donc on voit tous ces décalages. Et dans les guerres asymétriques, ce qu'on voit, c'est que très vite, il y a un phénomène d'usure. Et encore une fois, ce n'est pas que la France. Hein. Il y a eu les mêmes choses avec les Américains en Afghanistan, avec les Britanniques. En fait, au début, quand la France débarque, en 2013, au Mali, ils sont accueillis avec des drapeaux tricolores. François Hollande est à Tombouctou. Il dit « c'est le plus beau jour de ma vie ». Donc au début, les troupes sont bien accueillies. C'est des forces de libération. Mais quand ça s'éternise, très vite, ça devient des troupes d'occupation. Et en fait, c'est ce qui va se passer aussi, c'est que le ressenti va être de plus en plus négatif sur une opération qui ne répond pas aux attentes locales. Ah ben non, nous on est là que pour combattre les groupes djihadistes et terroristes, ça ne répond pas aux attentes locales. Et puis il y a plein de problèmes qui vont se poser, j'ai pas le temps de les exposer, notamment l'affaire de Kidal dès 2013, qui très vite vont montrer les limites de la coopération militaire entre la France et ses alliés de ce qu'on appelle le G5, hein, le groupe des 5, le G5 Sahel. Donc, guerre asymétrique avec des phénomènes d'usure qu'on voit et puis toutes les difficultés des guerres contre-insurrectionnelles en général, hein, et c'est pas que la France, j'insiste là-dessus. Donc des guerres aussi ingagnables. Alors on fait dire aux talibans hein, qui ont finalement obtenu gain de cause et chassé l'armée américaine d'Afghanistan, on leur fait prêter cette phrase, mais qui vaut tout à fait aussi pour ce qui s'est passé avec les groupes djihadistes au Mali, dans les pays voisins, Niger, notamment cette région qu'on appelle la région des trois frontières avec le Burkina Faso, hein, le Liptako-Gourma. Et cette phrase, c'est « Vous avez la montre et nous, on a le temps ». Et c'est là que se décline tout le phénomène d'usure aussi. Hein. C'est-à-dire, OK, au début, les groupes djihadistes, ils venaient d'Algérie au Mali, mais très vite, ils vont recruter des autochtones et finalement, les gens vont se battre pour leurs problèmes locaux. Ils ne vont pas se battre pour la lointaine figure d'Oussama Ben Laden, on ne va pas risquer sa vie pour ça. Ils vont se battre parce qu'il y a des vraies raisons de se battre localement, y compris contre des gouvernements autoritaires et corrompus, et donc décriés comme impies, puisque l'islam sert aussi à légitimer ces insurrections. Donc là, ces phénomènes d'usure jouent dans le temps, et ils vont jouer effectivement contre les forces françaises, mais qui ne mesurent pas un peu les conséquences. Je me souviens une fois, j'avais fait un débat, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision, et j'étais face à un militaire, et on lui objectait que quand même, la France était en train de perdre la bataille des cœurs et des esprits, et il lui dit « Oh, tout ça, c'est de la foutaise, de toute façon, c'est pas important, ce qui est important, c'est la capacité militaire, le technique, on va désinguer les chefs, les têtes de pont des réseaux djihadistes. » Et ça, ça a été aussi une des raisons de l'échec de Barkhane, c'est de mettre en œuvre des stratégies qui finalement ne sont pas adaptées, qui ne répondent pas aux demandes locales. C'est ce qu'on appelle les stratégies de décapitation. Parce que dans les guerres contre-insurrectionnelles, vous êtes face à un ennemi qui est invisible, hein, il est mêlé dans la population. Donc à moins de tirer dans le tas et de faire des dégâts collatéraux absolument abominables, bah, du coup, par défaut, en quelque sorte, on a eu une guerre de drones où il s'agissait de tuer à chaque fois les commandants, les têtes de pont des réseaux djihadistes. Sauf que ça ne résout rien, parce que vous les tuez et puis les seconds couteaux prennent la suite, et que du coup, en plus, à partir du moment où la France est intervenue, eh bien, les groupes djihadistes, qui au départ avaient un discours très islamiste, ont pu aussi se présenter comme des forces de résistance nationale, un peu comme le Hamas en Palestine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils étaient là aussi pour bouter le colonisateur, les croiser, etc. Plus les armées nationales maliennes, burkinabées apparaissaient associé à l'armée française, donc à l'ancien colonisateur, plus finalement ce discours pouvait rentrer en vigueur, un discours aussi de rejet de l'ancien colonisateur, et plus les armées nationales tuaient des civils, plus ça légitimait aussi les groupes insurrectionnels comme étant les protecteurs des musulmans de la zone. Donc on a toutes ces complications qui expliquent aussi pourquoi ce sont des guerres ingagnables. Quand les Américains interviennent en Afghanistan en 2001, après les attentats du World Trade Center, c'est pas du tout la même chose qu'en 2003 en Irak. C'est une guerre de représailles. Ils viennent de subir quand même une attaque monstrueuse sur les tours du World Trade Center à New York. Donc ils interviennent pour chasser Al-Qaïda d'Afghanistan. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, il n'y a pas eu de protestation énorme. Après, il y a eu des protestations sur les phénomènes d'usure, sur le fait que les Américains ont tué énormément de civils. Mais sur le moment, là, il s'agit de réagir à une attaque sur votre territoire national. Et ça, les conventions des Nations Unies l'autorisent, hein, chapitre 5 et 6 de la Charte des Nations Unies. Bon, OK. La France, excusez-moi, il y avait eu un attentat ici qui était mené par des groupes djihadistes au Sahel ? Il n'y en a pas eu. Non mais c'est dingue qu'il faille quand même le rappeler et que nos parlementaires n'aient pas levé la main en disant « Mais écoutez, vous envoyez 5000 hommes, c'est notre plus grosse opération militaire depuis la guerre d'Algérie, Outre-mer j'entends, et il n'y a pas eu d'attentat sur le territoire, donc c'est une guerre préventive. » Et donc le discours c'était « Oui, mais il y a eu des prises d'otages, et donc on va préventivement empêcher que la gangrène djihadiste ne s'étende sur cette zone du monde, n'est-ce pas ?» Ok, mais c'est une guerre préventive à ce moment-là. Or, vous pouvez retourner l'argument en disant, bah, si vous les attaquez, ils vont peut-être être tentés de monter des attentats sur le territoire national pour se venger du fait que les Français vont les combattre. Donc on peut très bien retourner cet argument. En tout cas, je tiens à le rappeler, contrairement à ce qui s'est passé en Afghanistan en 2001, quand on est intervenu, il n'y avait pas, et il n'y a jamais eu depuis, d'attentats sur le sol national qui ont été montés par ces groupes djihadistes qu'on nous a présentés comme une menace de toute urgence. Il fallait absolument déployer là, en quelques semaines, 5000 hommes sur le terrain. Et puis après, en 2022, bah, on a été chassés de la zone. Et là, tout d'un coup, la menace avait disparu, alors qu'elle est toujours là. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Il y en a eu en Grande-Bretagne, il y en a eu aux États-Unis. Posons les questions à M. François Hollande, à M. Jean-Yves Le Drian, qui était quand même le grand maître d'œuvre de ces interventions militaires, et demandons-lui, mais qu'est-ce qu'on allait faire exactement là-bas, puisqu'on n'avait pas eu d'attentat sur le sol national.
Camille, avec survie, tu peux rebondir un petit peu sur ces axes-là, en connaissant un petit peu le terrain de survie et son expérience, peut-être notamment avec les problématiques génocidaires au Rwanda, sur lesquelles ça fait quand même l'expertise de survie. Puis oui. Peut-être sur le terrain d'aujourd'hui, et pourquoi vous avez accepté de rejoindre Guerre à la Guerre aussi, quelque part, notamment avec le génocide en ce moment sur la Palestine.
Oui, bah, ouais. Merci beaucoup d'avoir donné la parole à survie ce soir. Et je vais totalement aller dans le sens de Marc-Antoine. Et merci d'avoir fait ce bilan de l'opération Barkhane. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu consensuel le fait que les ingérences militaires américaines au Moyen-Orient ont été désastreuses et que ça a été une débâcle. Mais on a vraiment du mal en France à faire ce retour sur notre propre impérialisme et sur nos propres guerres coloniales. Les voix critiques de cet interventionnisme militaire français se font rares. Et je pense que vous avez les deux principales voix critiques ici ce soir, justement. Survie, comme ça a été dit, c'est une association qui milite contre le néocolonialisme français. Donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet économique. J'en profite pour embrasser nos camarades qui sont en train de débarquer sur l'île de Bolloré en ce moment même. Il y a aussi donc le volet culturel. Et au final, le pilier militaire, c'est celui qui est le plus central, c'est celui qui permet vraiment d'asseoir le système asymétrique, inégalitaire et violent qui est au cœur des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines. Mais c'est celui qui est le plus naturalisé. Voilà, c'est normal que l'armée française soit présente sur le continent depuis les indépendances. C'est quand même une cinquantaine d'interventions militaires depuis les indépendances juridiques en Afrique. Donc ouais, il y a une tolérance totalement généralisée à ces interventions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les justificatifs à cette présence, elles ont dû être renouvelées au fil du temps. Et donc la doctrine de la guerre contre le terrorisme, c'est une des dernières et une des plus récentes. Mais au début, bah voilà, il fallait former les armées et les appareils répressifs de ces pays qui étaient nouvellement indépendants. Ensuite, il fallait donc défendre les valeurs démocratiques sur le continent. Et ensuite, il fallait donc voilà, préserver la stabilité de ces régimes. Et enfin, on est arrivé avec cette doctrine donc empruntée aux néolibéraux américains de la guerre contre le terrorisme. Et juste pour abonder dans le sens aussi de ce que disait Marc-Antoine un peu sur les impostures de cette doctrine, elles sont vraiment visibles à l'échelle du quinquennat de François Hollande. Donc voilà, cette doctrine de la lutte contre le terrorisme à l'extérieur du pays, c'est voilà, une décennie de guerre au Sahel qui a été contre-productive et qui a même limite alimenté la menace qu'elle prétendait vouloir neutraliser. Et à l'intérieur du pays, c'était aussi des mesures liberticides qui étaient donc utilisées pour des arrestations arbitraires et aussi une façon, encore une fois, de stigmatiser les populations, principalement musulmanes. Et aussi, donc, pour comprendre un peu la rationalité derrière cet interventionnisme au Sahel, c'est François Hollande lui-même qui le résume. Donc, c'est des propos qui ont été rapportés par le Canard enchaîné. Il aurait dit à des pilotes « Merci pour votre double mission, à la fois opérationnelle et commerciale. » Parce qu'en fait, quand l'armée française arrive au Sahel donc en 2013-2014, on a du mal à vendre nos rafales. Et une fois qu'ils ont été éprouvés au combat, c'est-à-dire qu'ils ont prouvé leur efficacité dans le fait de donner la mort, ils ont trouvé des acheteurs, et notamment le régime ultra-démocratique égyptien. Et donc, guerre à la guerre, on a choisi de s'attaquer au Salon du Bourget un peu comme cible de lancement de notre mobilisation, parce que donc, ces salons de l'armement matérialise la convergence d'intérêts qu'il y a entre les États et les industriels de l'armement, puisqu'ils collaborent ensemble, ils vont donc désigner les menaces et désigner les solutions à leur apporter. Et ensuite, ce sont les États qui vont créer ces conditions d'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc voilà, l'Afrique et le Sahel ont été utilisés comme des laboratoires d'expérimentation, de doctrine, de technologie, mais aussi comme des vitrines pour pouvoir ensuite les vendre. Et c'est un peu la rationalité et la logique qu'il y a derrière la plupart des déploiements militaires et policiers, donc dans les anciennes colonies africaines et dans les territoires d'outre-mer, mais aussi dans les quartiers populaires. Et je fais un petit encart pour mentionner le fait que la francophonie, c'est aussi un vecteur qui permet à la France de créer un marché de consommateurs qui vont se tourner vers les âmes françaises. Donc en fait, le français, c'est la langue de la guerre et de la répression d'une certaine façon. Et donc depuis les indépendances juridiques, la France signé des accords de coopération et de défense avec ses anciennes colonies. Mais dans le cadre de cette coopération militaire et policière, la France forme et fournit en matériel les forces de l'ordre et de répression de ses amis dictateurs qui se maintiennent donc au pouvoir pendant des décennies en réprimant dans le sang. Donc en fait, les dispositifs le savoir-faire de maintien de l'ordre français, dont on est si fier, qui vont donc par exemple éborgner les gilets jaunes ici, c'est aussi les mêmes dispositifs matériels qu'on envoie donc à nos amis au Togo, au Cameroun, et qui vont donc être utilisés pour réprimer les manifestants pacifistes dans ces pays-là. Et ce, malgré le fait que la France, en 2014, a ratifié le traité de commerce des armes de l'ONU, qui interdit donc d'exporter des armes et du matériel s'il y a des preuves qu'ils peuvent être utilisés contre des civils. Malgré tout ça, on a l'impression que le droit, c'est un cadre qui régit moins le commerce des armes que l'appât du gain, au final. Nous, à Survie, ça nous tenait à cœur de porter ce mot d'ordre de guerre à la guerre, parce que justement, la France, à travers cette coopération-là, elle a une longue tradition de complicité, de crimes envers les populations africaines qui sont réprimées par les régimes non démocratiques sur lesquels on s'appuie pour préserver nos intérêts. Actuellement, l'État français soutient le régime génocidaire israélien, mais c'est pas la première fois qu'on est complice de génocide. Y a un des combats historiques de l'association Survie, c'est la reconnaissance de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, parce que l'État français a soutenu diplomatiquement, politiquement, militairement, financièrement, l'État génocidaire rwandais à l'époque. Il faut savoir que le 27 avril 1994, donc 20 jours après le déclenchement du génocide, Paris a été la seule capitale à recevoir une délégation du gouvernement génocidaire à l'époque. Et donc il faut savoir que Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, a reçu son homologue à l'époque, alors que le génocide était déjà en cours, que les idées extrémistes de ce gouvernement ne pouvait pas être ignoré, et à ce jour il n'a jamais exprimé aucun regret. Et je citerai également les mots du président de l'époque, François Mitterrand, qui aurait dit dans ces pays-là, un génocide c'est pas trop important. On voit bien que le pays des droits de l'homme protège son rang de 7e puissance mondiale au prix de la complicité de génocide et au prix des pires violations des droits humains et internationaux. Donc en plus d'avoir facilité de manière directe ou indirecte la perpétration du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, une bonne partie des autorités politiques et militaires françaises ont prolongé l'action des génocidaires en alimentant une forme de négationnisme à la française. Parce que nier le crime, c'est aussi nier les complicités qui l'ont rendu possible. Et sauf qu'aujourd'hui, la classe politique française, elle continue de se déshonorer de manière décomplexée cette fois-ci, parce que là, il n'y a même plus cette idée de faire de la stratégie indirecte ou d'arrondir les angles. Aujourd'hui, on soutient un génocide qui est annoncé, proclamé et internationalement toléré, donc celui des Palestiniens et des Palestiniennes. Donc comme en 1994, au Rwanda, les grands industriels du secteur de la sécurité et de la défense bénéficient des débouchés créés par les membres de l'appareil d'État, Donc ils sont unis aussi par une relation d'actionnariat, parce que voilà, l'État français est quand même actionnaire de tout ce qui est Thalès, Safran, etc. Pour nous, à survie, on s'engage dans Guerre à la Guerre, parce qu'il est inacceptable que de telles politiques continuent d'être menées en notre nom et en absence de tout contrôle parlementaire, comme le disait Marc-Antoine, et dans la plus grande opacité, parce que voilà, il y a un rapport sur les ventes d'armes qui est fait chaque année par le Parlement, mais on n'a pas du tout le détail, justement, du matériel qui est fourni dans le cadre de l'appui aux forces de l'ordre des pays non démocratiques. Donc voilà, il est temps de mettre fin à la coopération militaire et policière de la France avec des régimes criminels, rendus possibles aussi par la déshumanisation raciste et la hiérarchisation des vies des populations des pays dits du Sud. Et ça, c'est totalement un héritage colonial qu'il faut d'abord nommer, qu'il faut dénoncer et donc qu'il faut combattre.
Dans cette émission, un appel au week-end de mobilisation contre la tenue du Salon du Bourget. Et cette table ronde a été enregistrée le 24 mai dernier au Cirque Électrique. Et nous allons passer à la deuxième table ronde qui avait comme thème « Dépendance aux exportations d'armes et complicité de crimes de guerre ».
Donc là, on va s'attacher un petit peu aux dépendances aux exportations d'armes et à la complicité du coup de crimes de guerre, pour poser des termes directs, un petit peu les dessous de la souveraineté, ce qu'on pourrait appeler la souveraineté militaro-industrielle française. Et pour ça, du coup, on a Stop Arming Israel, du coup France, que vous connaissez, hein, du coup, on peut les applaudir, qui ont répondu à l'appel des syndicats palestiniens. Les syndicats palestiniens qui ont appelé à bloquer l'armement, ou en tout cas à y porter des grèves, donc voilà, c'est un collectif qui continue d'œuvrer. Tu vas pouvoir expliquer un petit peu tout ça. On a Boussole Palestine avec nous. Merci hein, d'être là, du coup.
Merci à vous pour l'invitation.
Collectif palestinien et palestinienne pour la libération de la Palestine, retour des réfugiés, défendre la cause palestinienne, c'est
tout ça,
hein.
Tout ça.
Tout simplement. Hein.
Libérer le pays, quoi.
Voilà. Et un camarade syndicaliste, activiste, militant, qui a fait la route, CGTST Microélectronique, c'est ça, depuis la lutte en Isère, hein, une lutte qui cette année a été bien menée, là, en avril, avec une grève, un débrayage, avec les mots d'ordre contre le génocide, contre l'armement du génocide en Palestine, qui a été menée avec Urgence Palestine. Et du coup, on va pouvoir parler de cette corrélation entre entreprises françaises et crimes de guerre, mais aussi quels moyens de résistance par la base, hein. Voilà, et puis qu'est-ce que nous enseigne la Palestine? Qui veut commencer? Allez, Stop Arming Israel.
Bonjour, merci de nous donner la parole ce soir. Donc, comme tu l'as dit, Stop Arming Israel France, c'est un collectif qui est assez jeune. On s'est monté pour répondre à un appel qui a été lancé par les syndicats palestiniens le 16 octobre 2023 et qui disait « Mettez fin à toute complicité, arrêtez d'armer Israël ». Et comme c'est un appel de syndicats et de syndicalistes, il s'adresse avant tout aux syndicats et aux travailleurs de par le monde qui sont sur la chaîne d'approvisionnement des armes qui arrivent en Israël. Moi, d'abord, je voudrais rappeler que la France, c'est quand même le deuxième exportateur d'armes au monde. Pour un si petit pays, un pays qui prétend être en paix, ça vaut le coup de le rappeler. Pour la France, les exportations d'armes, c'est plus de 30 milliards d'euros par an, il me semble. On est vraiment sur des chiffres énormes. Et on a le droit de se demander pourquoi ce petit pays qui n'est soi-disant pas en guerre exporte et fabrique autant d'armes. Je voudrais revenir un peu sur l'historique de la relation entre la France et Israël en termes d'armement. Depuis la création de l'État d'Israël, dès 1948, la France a armé Israël. C'était un des premiers pays à armer Israël. C'est le pays qui a fourni vraiment la première flotte d'avions de combat à Israël et qui a même aidé Israël à se doter de l'arme atomique. Mais en 1967, au moment de la guerre des six jours, ça a un peu changé parce que le général de Gaulle a décidé qu'il fallait imposer un embargo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet embargo, il n'a pas tout de suite été suivi d'effet et que des entreprises qui fournissaient des armes à Israël, comme Dassault, qui a été un des premiers fournisseurs, qui a fourni donc toute cette flotte d'aviation dont je vous parlais, a pu contourner cet embargo en fournissant à Israël toutes les pièces pour fabriquer eux-mêmes les avions de Dassault. Et on a aussi, par exemple, des entreprises comme l'ancêtre de Safran, qui s'appelait Turbomeca ou quelque chose comme ça, il me semble, qui a permis à Israël de construire ses propres usines aéronautiques pour construire eux-mêmes les moteurs d'avions dont ils allaient avoir besoin pour continuer de fabriquer leurs propres armes. Donc la France a fourni les premières armes à Israël, mais a aussi permis à Israël de construire ses premières armes par elle-même. Donc suite à cet embargo, forcément, la France a un peu reculé dans son rôle d'armement d'Israël. Maintenant, on sait très bien que c'est les États-Unis et l'Allemagne qui sont les principaux fournisseurs d'armes à Israël. Mais la France continue de faire partie de ses fournisseurs, ça a pris des formes différentes. On sait qu'aujourd'hui, officiellement, la France vend pour environ, en moyenne, autour de 20 à 30 millions d'euros par an de matériel militaire à Israël. Mais ces 20 millions d'euros d'export, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce qu'après, il y a tout un réseau de coopération, de co-entreprises, de recherche commune entre des entreprises d'armement françaises et israéliennes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la France actuellement vend pas à Israël des avions de combat comme elle le faisait à l'époque, vend pas des chars, des canons César ou des F-35 comme les États-Unis, mais la France continue de vendre des composants d'armement à Israël comme des pièces détachées de drones, comme Thales qui vend des composants radio, des radars, des transpondeurs qui aident les drones israéliens à voler et sans lesquels les drones israéliens pourraient tout simplement pas bombarder, surveiller, voler au-dessus de Gaza actuellement. Donc ça fait partie des composants qui ont continué d'être vendus pendant le génocide en Palestine. On a le média d'investigation Disclose qui a prouvé des ventes jusqu'en 2024 de ce type de composants par Thales pour plusieurs millions d'euros. Ces entreprises d'armement contribuent activement au génocide à Gaza actuellement. Mais il faut aussi savoir que Israël n'est pas un lapin de six semaines qui dépend complètement des entreprises d'armement étrangères. Parce qu'Israël s'est aussi lui-même très bien positionné sur le marché de l'armement. On a parlé tout à l'heure avec Survie de la façon dont la France se positionne sur le marché international des armes en montrant ses armes testées au combat, au Sahel, dans ses anciennes colonies. Eh bien, Israël fait un peu la même chose. Il faut savoir qu'Israël s'est quand même positionné, on parlait de petits pays qui sont quand même très bien positionnés dans le top 10 des vendeurs d'armes au monde. Israël, selon les années récemment, était 9e exportateur d'armes au monde. Et c'est pas très étonnant parce qu'Israël, c'est un pays qui, depuis sa création, a développé et perfectionné ses technologies d'armement, ses technologies de destruction, de surveillance et de contrôle grâce à l'état de guerre permanent qu'ils maintiennent eux-mêmes sur les territoires palestiniens. Donc on peut parler, il y en a qui parlent régulièrement de la Palestine comme laboratoire de technologies d'armement, parce qu'à la fois les entreprises d'armement israéliennes testent, développent leurs technologies là-bas, sur les territoires palestiniens, mais aussi tous les vendeurs d'armes internationaux qui vendent des armes à Israël. Mais il ne faudrait pas oublier non plus, en parlant de la Palestine comme laboratoire d'armement, il ne faudrait pas oublier que la destruction et le contrôle de la population palestinienne, c'est bien le but premier d'Israël, et au final son rôle de cobaye, c'est plutôt seulement un avantage supplémentaire qu'en tire Israël. Comme je disais, Israël s'est très bien positionné depuis, par exemple, les années 2000 sur le marché du drone. Et donc la France, qui elle était assez en retard sur ces technologies-là dans les années 2000, a acheté à Israël des technologies de drones. Airbus, par exemple, a co-développé sa ligne de drones avec des entreprises israéliennes comme Elbit Systems ou Israel Aerospace Industries. Et donc les drones de Airbus, qui s'appellent les drones Harfang, sont basés sur des modèles israéliens. De la même façon, Thales a développé, et cette fois-ci carrément en co-entreprise avec Elbit Systems, une ligne de drones, c'est les drones Watchkeeper. Ces drones-là sont, entre autres, vendus à des armées étrangères, vendus à l'armée britannique, mais aussi déployés sur la Méditerranée dans le cadre du programme Frontex. Donc, ils ont été co-développés sur la base de drones israéliens. Donc ces modèles basés sur des modèles israéliens, on peut vraiment parler d'un blanchiment de technologies qui sont testées et développées sur les Palestiniens, qui sont donc combat proven, comme on disait tout à l'heure, qui sont prouvées au combat, et qui sont ensuite réexportées à d'autres armées, à la fois donc pour le profit des entreprises d'armement israéliennes et de l'économie israélienne, mais aussi pour le plus grand profit des entreprises françaises d'armement comme Airbus, Thales ou Safran, et donc pour l'enrichissement militaire de la France. Ce qu'on voit, c'est qu'Israël est vraiment dépendant des exportations d'armes pour faire tourner son économie. La France est aussi assez dépendante des exportations d'armes pour tourner son économie. D'ailleurs, Israël et la France ont un peu ce point commun d'avoir énormément développé industriellement l'industrie d'armement au détriment, au final, d'autres industries. Parce que si on est aussi addict en France aux ventes d'armes, c'est aussi parce que c'est un choix stratégique, c'est un choix qu'on fait au détriment d'autres choses, de développer l'industrie d'armement plutôt que d'autres industries qui sont utiles à la population. Et donc Israël a ce même problème de façon encore plus exacerbée. Les vendeurs d'armes israéliens comme Elbit Systems sont parmi les premiers employeurs en Israël. Et donc Israël a besoin d'exporter ses armes. Et donc Israël adore venir exposer ses armes et commercer dans des salons d'armement internationaux. Nous, aujourd'hui, on est aussi réunis pour préparer une mobilisation contre le salon du Bourget. C'est ce type de salon dont on parle. Et c'est une autre façon donc, dont la France contribue au commerce des armes avec Israël, mais aussi au commerce des armes en général, au commerce des armes internationales. C'est justement en organisant ce type de salon. La France est assez spécialiste de ces salons parce qu'elle compte parmi les plus grands salons d'armement au monde. Donc Milipol, Eurosatory, Euronaval, Le Bourget. Tout ça, c'est une façon dont la France facilite et se positionne comme un intermédiaire dans le commerce des armes. Et d'année en année, Israël a pris une place de plus en plus importante dans ces salons. Il y a de plus en plus de stands de vendeurs d'armes israéliens chaque année dans ces salons d'armement. Il y a le ministère des armées israélien qui est représenté, et en particulier son service dédié aux exportations d'armes. Bien sûr, Israël n'est pas le seul vendeur d'armes problématique au Bourget. D'ailleurs, les vendeurs d'armes français sont parmi les plus problématiques. Mais il y a des entreprises, de façon générale, au Bourget qui fournissent des armes utilisées au Yémen, au Soudan, au Congo, en Ukraine. Nos entreprises françaises, elles n'ont pas de problème à vendre aux pires régimes du monde. Les premiers clients de la France en matière d'armement, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est l'Égypte, c'est l'Inde. On nous vend qu'on va augmenter les budgets militaires pour défendre l'Ukraine en ce moment, mais en fait, on parle d'entreprises qui n'ont aucun problème à également fournir des composants à la Russie, et on retrouve des composants de certaines entreprises, dont STMicroelectronics, dans les drones russes. Donc en conclusion, ce qu'on voit, c'est que les entreprises d'armement, pour elles, le commerce des armes, c'est vraiment une question de profit. Les crimes de guerre, le génocide, c'est pas des freins, c'est parfois même plutôt un argument de vente pour dire « regardez nos armes comme elles tuent bien ». Et on a des patrons qui sont des profiteurs de guerre, qui s'enrichissent sur le dos des peuples. Thales, par exemple, a fait, comme tous les vendeurs d'armes français, des profits records l'année dernière, en 2024. Et en plus, on peut le dire, ils ne redistribuent absolument pas les richesses à leurs propres salariés de façon qui corresponde à cette croissance permanente de leurs profits. Donc ni les peuples, ni les travailleurs n'ont quoi que ce soit à gagner sur le commerce des armes. Et nous, à Stop Arming Israel France, ce qu'on en tire comme conclusion, c'est que la seule solution pour lutter contre ça, c'est de construire une solidarité internationale conséquente, par en bas, en partant des peuples et en partant des travailleurs. Selon nous, il faut vraiment utiliser les moyens de la lutte des classes dans ces entreprises complices et contre ces entreprises complices. On peut s'opposer en tant que travailleurs, en tant que militants, nous toutes et tous, et pas seulement en faisant appel aux droits, aux parlementaires, à l'État. On peut s'opposer en tant que travailleurs à nos patrons et à leurs intérêts pour faire valoir nos intérêts à nous, nos intérêts à la fois en tant que travailleurs, nos intérêts en tant que peuple solidaires les uns des autres. Voilà, je rappelle que nous, on s'est monté pour répondre à un appel des syndicats palestiniens, et que donc, pour nous, ça fait complètement sens de rejoindre une coalition comme Guerre à la Guerre qui vise à lutter par en bas contre le commerce d'armement.
Puissant. Du coup, la complicité directe, la France arme un génocide actuellement et Israël se sert du peuple palestinien pour exporter des armes. Est-ce que du coup, avec tout ça, boussole Palestine, tu veux continuer sur, par un angle palestinien du coup ?
Moi, je ne vais pas l'aborder de la manière dont l'a fait la camarade de Stop Arming, parce que c'est un sujet qui est pointu, qui est large. Je vais l'aborder d'une manière avec un prisme palestinien, avec un prisme de peuple en voie de décolonisation. Et nous, ce qu'on constate, c'est que la dépendance aux exportations d'armes et la participation, en fait, de la France dans ces crimes-là, elle ne se résume pas seulement à des questions matérielles, à des questions financières et économiques. Ça s'inscrit d'abord dans un cadre de continuum colonial. La vente d'armes entre la France et Israël, ce n'est pas un enjeu vital pour la France. Tu as dit que c'était 20 millions... en surface. 20 millions, ce n'est pas une économie dont la France est dépendante. C'est une économie dont on peut se passer. Et là où l'intérêt est, c'est qu'il y a un besoin dans les échanges de méthodes de gestion coloniale. Un exemple pour illustrer ça, c'est qu'entre 1948 et la fin des années 60, comme tu l'as dit, la France était le premier fournisseur d'armes à Israël. Pourquoi ? Parce que Israël était un des seuls soutiens de la France dans la colonisation de l'Algérie. Israël était un demandeur de ces méthodes, de cette gestion coloniale. Et dans ce besoin d'échange, la France, elle a été un des inventeurs des méthodes contre-insurrectionnelles et elle les a exportées, pas seulement en Israël, elle les a exportées en Amérique du Sud, elle les a exportées au Béret Vert, donc les brigades, les forces spéciales américaines dans leur gestion au Vietnam. Il y a un exemple qui est très parlant pour ce point-là, c'est que la bataille d'Alger, je ne sais pas si vous avez vu le film, la bataille d'Alger, elle a été présentée à des officiers américains pendant la guerre d'Irak pour justement apprendre à mater des révoltes dans les cités arabes, apprendre comment on gère ces révoltes-là et comment on gère les insurrections des peuples arabes. C'est toutes des méthodes qui sont beaucoup plus larges que la simple quantité d'armes. La France est en réalité une école de la guerre coloniale, des méthodes coloniales. Elle est une école des méthodes contre-insurrectionnelles. Pourquoi coloniale ? Coloniale, c'est quand on considère qu'un peuple est inférieur. Ça se traduit ici en France, par exemple, quand il y a eu les révoltes suite à l'assassinat de Naël. Les méthodes qui ont été utilisées, elles ont été directement conseillées par la police israélienne. Il y a des articles à l'Humanité qui en parlent. L'officier de la police israélien en a parlé devant la Knesset. C'est des méthodes qui ont été directement conseillées par la police israélienne. Ça prouve en réalité que la manière d'agir avec les populations de l'immigration ici en France, on considère que c'est une conflictualité coloniale. On considère que ces peuples-là sont inférieurs. On considère que par rapport aux autres mouvements sociaux, les gilets jaunes, les retraités, ben eux, on doit les mater d'une certaine manière. Et c'est ce qui fait qu'on a des images de conquête. On a des images de blindés qui rentrent dans les quartiers. On a des tourelles, on a des armes violentes, des tirs avec des espèces de petits sacs dans des fusils à pompe qui sont beaucoup plus destructifs en réalité que des flashballs, etc. Tout cela, ça s'inscrit dans un cadre. C'est un cadre colonial, c'est un continuum colonial. Ce qui permet aussi qu'aujourd'hui, Israël a autant de soutien dans la politique française. C'est qu'on s'est inspiré de l'aspect sécuritaire israélien. Dans un premier temps, on l'a dépolitisé. On a dit que l'aspect sécuritaire, c'était la sécurité. Il n'y a pas de politique dedans. On gère des révoltes. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, on parle de terrorisme, on parle d'islam, on trouve des boucs émissaires. Et en instrumentalisant ces forces-là, ces points-là, on se permet de dépolitiser et on se permet d'agir avec des gens qu'on considère inférieurs. Il y a la demande d'urgence palestine de mettre un embargo sur ces armes-là, mais quand on dit un embargo sur l'export des armes, c'est aussi un embargo sur l'exportation et l'échange des méthodes coloniales.
Bravo. Là, du coup, on aimerait voir la résistance par la base, à travers l'usine. En Isère.
Roll. Bah, si tu veux, je peux revenir sur le début un peu de comment tout ça a commencé.
Oui.
Bon, du coup, moi, je représente aujourd'hui tous les syndicats et sections de la CGT ST Microelectronics, donc notamment Grenoble, Kroll, Rennes, Rousset et Tours. On voudrait commencer par dire ce qu'on a écrit dans notre tract du mois en cours. Donc, tous nos syndicats et sections sont solidaires d'urgence Palestine contre la demande de dissolution par le ministre de l'Intérieur. Et donc maintenant, je vais essayer de vous raconter un peu la lutte qu'on essaye de mener dans notre entreprise. Donc ST Microelectronics, c'est une boîte qui fabrique des semi-conducteurs, des composants comme vous en avez tous dans vos téléphones et dans plein d'appareils électroniques. C'est une boîte du CAC 40, c'est une des boîtes les plus subventionnées en France, plusieurs centaines de millions d'euros de subventions. Parmi les actionnaires principaux, il y a l'État français, l'État italien et après des fonds de pension notamment. Le premier enjeu pour une entreprise comme ça, c'est de récolter des informations. Et en fait, c'est déjà quelque chose qui est très difficile parce que tout est très segmenté. Donc en fait, savoir concrètement à quoi nos produits vont servir, c'est une première étape. Et en fait, c'est très difficile. Donc pour ça, on s'appuie notamment sur l'aide d'organisations, donc Urgence Palestine, Stop Arm Israel France, l'Observatoire de l'Armement, Amnesty International, qui eux font des enquêtes, évidemment des journalistes aussi qui font des enquêtes, parce que nous, on n'a littéralement aucune info. On peut s'imaginer que les travailleurs et les travailleuses savent le produit sur lequel ils travaillent, à quoi il va servir derrière. Mais en fait, comme c'est des composants qui peuvent autant être dans un drone que dans une machine à laver, en fait, c'est très dur de savoir exactement quelle sera l'utilité à la fin. Ce qui est sûr, c'est que notre entreprise ST Microelectronics, elle a des liens assez forts avec Israël. Il y a un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros fait en Israël, notamment avec un centre de R&D et tout un tas de partenariats. Alors, c'est plutôt des partenariats de recherche et développement. De fait, on sait qu'Israël est un pays qui est extrêmement militarisé, avec une économie militarisée. Donc en fait, j'allais dire presque même par hasard, c'est quasiment impossible d'imaginer qu'il n'y ait aucune collaboration qui soit en lien avec de l'armement. Alors avec de l'armement, on ne sait pas, mais en fait, il n'y a pas que l'armement, il faut vraiment voir au-delà, parce que tout ce qui est la surveillance, les télécommunications, tout ça, c'est les choses qui permettent de maintenir l'occupation de la Palestine, l'apartheid, et ça ne rentre pas dans la catégorie armement. Pourtant, c'est des choses qui sont littéralement vitales au maintien d'Israël en Palestine. Donc voilà, on sait quand même qu'il y a probablement des choses, et donc on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Un peu par hasard, on a rencontré Stop Arm Israel France en 2024. Et suite à cette rencontre, on s'est dit, bon, on va travailler sur quelque chose. Et on a décidé de commencer par écrire, donc le 3 juin 2024, une lettre ouverte au PDG de l'entreprise à propos de la situation à Gaza, dans laquelle on lui demande de prendre des mesures fortes et urgentes pour garantir que notre entreprise ne participe ni de près ni de loin au massacre en cours à Gaza. En particulier, on lui demande de communiquer au CSE, donc c'est l'organe où il y a les syndicats et le patronat, donc de communiquer l'ensemble des partenariats avec le secteur de la défense israélienne, de s'engager à ne plus travailler avec des intermédiaires commerciaux qui détournent les composants. Vous savez qu'il y a des interdictions de donner des armes à Israël, mais du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent à des genres de grossistes, par exemple en Asie, qui eux vont revendre à Israël. Et parfois, il y a une dizaine de grossistes qui masquent quelque part le réseau. Et surtout de suspendre immédiatement toute collaboration avec des entreprises du secteur de la défense, y compris hors armement. Suite à ça, le 20 juin 2024, la direction a fait une réponse en CSE central où ils mettent le truc sous le tapis en disant « on respecte toutes les conventions internationales », ce qui évidemment ne veut pas dire grand-chose. Finalement, en avril de cette année, on a organisé avec Urgence Palestine un rassemblement devant l'usine avec le soutien de plein d'orgas, Stop Arm Israel en particulier. Donc on a appelé les travailleurs et les travailleuses à la grève à l'occasion de ce rassemblement. Il y avait environ une centaine de personnes rassemblées devant l'usine, donc des militants de la CGT et des militants d'organisations de solidarité avec la Palestine, d'orgas politiques, etc. Donc c'est un peu une des premières expériences comme ça de grève d'une entreprise directement liée à Israël qui a été réalisée. Maintenant, je voudrais vous parler un peu de méthode syndicale, on va dire, et de qu'est-ce qui est spécifique au syndicat. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est avoir un syndicat comme les nôtres qui se positionne clairement sur des enjeux qui dépassent le simple cadre des conditions de travail, donc du salaire, etc., et qui fait de la politique. C'est quelque chose qui n'est jamais évident, et il y a beaucoup de syndicats qui, encore aujourd'hui, ont peur de faire ça. Ensuite, nous, le syndicalisme qu'on défend, c'est un syndicalisme où on fait toujours avec les salariés, et en particulier avec les syndiqués. Les syndiqués, ce n'est pas des salariés à part, c'est des salariés qui sont dans l'entreprise, qui au quotidien sont avec leurs collègues, et on veut toujours faire ensemble. Notre idée, c'est que ça ne sert à rien d'être un kilomètre devant tout le monde si derrière, on n'est pas suivi de manière massive. Pour ça, ça prend du temps. Ça veut dire que bah, quand on veut faire une action, quand on veut faire une lettre, eh ben, on fait en sorte d'en discuter avec tout le monde, mais genre vraiment avec tout le monde. Typiquement, la lettre ouverte qu'on avait écrite, elle n'est pas signée juste par le secrétaire général du syndicat, elle est signée par tous les syndiqués CGT de ST Microelectronics en France. Un truc intéressant, c'est que ces discussions-là sur la Palestine, en fait, elles ont permis d'ouvrir le champ sur de nouvelles questions. Et en fait, des camarades, assez spontanément, ont commencé à se dire, mais OK, pour la Palestine, le truc est assez évident, mais en fait, il y a plein d'autres situations dans le monde où potentiellement nos composants sont utilisés pour réprimer, et notamment la situation de la Kanaky a émergé en se disant, bah, en fait, oui, on ne veut pas fournir du matériel à Israël, mais est-ce qu'on veut fournir du matériel à notre propre armée si c'est pour continuer la colonisation de la Kanaky? Donc, dans nos textes, un truc qu'on fait aussi, c'est qu'on prend le temps de sourcer de manière hyper précise tout ce qu'on dit, d'être hyper prudent sur les mots, et ça nous permet en fait d'avoir finalement des très bons retours des salariés. Enfin, on s'imagine qu'en France, dans la population, il y a un genre de clivage énorme en fait entre pro-palestiniens et anti-palestiniens. On s'est préparé un peu en mode, il y a des gens qui vont râler, il y a des gens même qui vont être véhéments parce qu'on sait que voilà, le sujet est compliqué. Et en fait, pas du tout. Globalement, les gens étaient hyper contents. Des gens dont on s'imaginait pas qu'ils s'intéressaient au syndicalisme, bah, sont venus nous voir pour nous remercier, et vraiment des salariés d'entreprise. Et aussi depuis, bah, du coup, on a été contacté par plein d'autres syndicalistes en France et à l'étranger qui, pareil, se posent des questions, voudraient reproduire des choses. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de copier-coller ce qui a été fait dans une entreprise. Ça dépend énormément du rapport de force localement, des conditions. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Évidemment, sur tout ça, il y a vraiment la question des moyens de production, à qui ils appartiennent, et du coup, qui prend les décisions, en fait, sur la production, qu'est-ce qu'on produit et à quoi va servir notre production. Et on est obligé de poser la question de à qui appartiennent les moyens de production. Si on veut reprendre le contrôle sur ça, ça peut passer que par là. Je vais conclure en disant que il faut construire un mouvement par en bas, par les travailleurs et les travailleuses. Il faut continuer qu'en tant que syndicaliste, on mette en commun nos expériences de lutte, les réussites et aussi les difficultés, qu'on reprenne confiance en nous pour avoir notre mot à dire en tant que travailleurs et travailleuses sur notre production.
Terminons cette émission aujourd'hui en appel au week-end de mobilisation contre la tenue du Salon du Bourget qui aura lieu du 20 au 22 juin 2025. Nous communiquons l'agenda de ce week-end. On commence par vendredi. Ce vendredi 20 juin 2025, ce sera le meeting d'ouverture qui aura lieu à 18h30. Et cela se tiendra à la Bourse du Travail de Bobigny, place de la Libération. Samedi 21 juin à 13h, grande manifestation qui sera au départ de la Bourse du Travail de Bobigny. Ça sera à 13h et de 16h à 23h, concert contre les marchands de mort. Et enfin dimanche, un village anti-guerre avec des tables rondes, concerts, animations, ateliers et assemblées de clôture. Et cela se tiendra toujours à la Bourse du Travail de Bobigny, place de la Libération et parc du Mar.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur l'école Garrigue à Montpellier, Canassul, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
De l'Hôtel de Ville.